De 1852 à 1870, la prospérité et les échecs du Second Empire. Forcément, Louis-Napoléon est tenté par l'aventure qu'entreprit en 1804 son oncle, Napoléon Ier, créer un empire héréditaire. Cela se fera d'autant plus facilement que l'épopée napoléonienne compte encore beaucoup de témoins en France, sinon d'acteurs. Napoléon III organise, muselle, colonise. Dans ses premières années, le Second Empire ne donne pas dans la nuance. Tout ce qui pourrait porter le ferment de la sédition est étroitement surveillé, réglementé. La politique intérieure est autoritaire, la politique extérieure se fait conquérante. Les 21 et 22 décembre 1851, le prince-président Louis-Napoléon pose par référendum cette question au peuple. Le peuple français veut le maintien de Louis-Napoléon Bonaparte et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution. Oui ou non? Oui, 7 500 000. Non, 650 000. Le 1er janvier 1852, Louis-Napoléon quitte l'Élysée pour les Tuileries. Le château d'oncle Napoléon. Le 6 janvier, il fait supprimer la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Le 14 janvier, la Constitution est proclamée. Le président possède seul l'initiative des lois. Le 16 février, la fête nationale est fixée le 15 août, anniversaire de la naissance de Napoléon le Grand. Le 17 février, des lois sont votées qui musellent la presse. Le 20 mars, un décret étonnant paraît. Il est interdit aux professeurs de porter la barbe, car elle est considérée comme un symbole d'anarchie. Dans un discours qu'il prononce à Bordeaux, le 9 octobre 1852, le prince-président Napoléon affirme que si l'Empire ce fut la guerre, pour lui l'Empire, c'est la paix. Le 16 octobre, il fait une entrée triomphale à Paris, où il peut lire à l'entrée du Jardin des Tuileries, à Napoléon III, empereur, sauveur de la civilisation moderne. Et c'est signé, les ouvriers reconnaissants. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Le vote des 21 et 22 novembre rétablit l'Empire par 7 900 000 oui contre 250 000 non. Le 2 décembre 1852, le prince-président Louis-Napoléon devient officiellement l'empereur Napoléon III.
Bel et charitable génie. Dans Eugénie, il y a génie. D'après les témoignages des contemporains du Second Empire, le génie que Napoléon III épouse le 29 janvier 1853 n'en possède guère en politique. Son père est un noble d'Espagne. Sa mère, qui a eu pour amis Mérimée et Stendhal, est la fille d'un marchand de vin et de légumes. Habilement piloté par sa mère, Eugénie se retrouve dans les bras de Napoléon III, qui l'épouse, lui est fidèle 3 mois, et la laisse s'occuper de politique afin qu'elle ne lui fasse pas trop de ces scènes de jalousie dont elle est coutumière. Très populaire, elle est belle et charitable, l'impératrice Eugénie donne à son marivolage un héritier, le 16 mars 1856, le prince impérial Louis. Elle est inspirée en affaires. Elle apporte son soutien à son cousin Ferdinand de Lesseps pour le percement de l'isthme de Suez. Elle l'est moins en politique. C'est elle qui pousse son mari à intervenir au Mexique, à soutenir Maximilien jusqu'au désastre. C'est elle qui lui conseille de déclarer la guerre à la Prusse en 1870.